Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Un numéro spécial du Zoom de l'info, plutôt des numéros, puisque nous lançons une collection spéciale promoteur. Il était temps, vu l'actualité. Ce qu'on vous propose, les amis, une fois n'est pas coutume dans notre Zoom de l'info hebdo, c'est qu'on va vous proposer chaque semaine de faire une série de portraits. On a prévu de faire une dizaine de portraits de promoteurs, ceux qui bâtissent la ville. Ils viennent de tous les horizons. Ils font de l'industrie, ils font de la logistique, ils font du commerce, ils font de l'immobilier de résidentiel, de absolument tout. On a même des promoteurs innovants, dont un qui a carrément mis dans son immeuble une centrale photovoltaïque. C'est vous dire que les promoteurs ont de l'innovation chevillée au corps. Alors pourquoi on a fait cette promotion de portraits justement de ceux qui fabriquent la ville? C'est parce que la crise du logement touche durement le pays et que on voulait faire un zoom de l'info plutôt positif sur les modes constructifs, sur l'innovation, sur par exemple l'énergie et sur comment finalement demain, on ne bâtira plus forcément de la même façon. Et quelque part, le métier de promoteur évoluant, aussi les métiers changent. On va commencer ce premier numéro avec quelqu'un qu'on connaît bien ici sur Radio Immo et qui nous a d'ailleurs montré ce qu'il fait. Il a la particularité de construire en pierre de taille. C'est d'ailleurs un peu l'ADN ou la singularité de ce groupe. Groupe Verrecchia, avec vous, Marc Verrecchia, son fondateur et son président. Bonjour.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. C'est vrai que c'est innovant. Vous êtes... Enfin, je ne vois pas d'analogie, je ne vois pas de concurrent direct sur un promoteur qui fait de la pierre.
Alors c'est vrai, on est assez singulier. On a repris ce métier-là parce qu'on avait un papa qui était tailleur de pierre déjà il y a une quarantaine d'années. Mais la pierre de taille, elle ne nous a pas attendu pour exister. Elle est là depuis des temps.
On a construit Paris avec de la pierre de taille, de la pierre de voilà. Oui, absolument. Et puis, mais c'est vrai qu'on était passé au béton avec du béton armé, des parpaings. Et là, vous faites quand même de la pierre.
Oui, alors le béton, ça fait 70 ans qu'il est là. La pierre, ça fait quoi, 4000 ans à peu près.
C'est clair.
On est juste de passage pour la pierre. Hein. On ne fait que pousser le chemin de cette pierre.
Mais c'est une singularité, le fait de
faire une vraie singularité parce que, c'est un produit national, donc on est déjà sur quelque chose qui est fort. Et puis, cette particularité, c'est qu'il faut savoir la travailler, il faut savoir la couper, il faut savoir la mettre dans l'architecture. C'est un métier de très qualifié. Vous voyez, un tailleur de pierre, c'est quelqu'un qui est très qualifié.
Alors justement, la crise du logement neuf, elle vous a pas échappé, Marc Verrecchia, puisque les promoteurs sont à la peine. C'est non pas leur faute directe. Malheureusement, on a une crise structurelle et une crise conjoncturelle. Pas de bol. Structurellement, on a une politique du logement qui, franchement, est délétère, et ça depuis le premier mandat d'Emmanuel Macron. On le voit avec les atermoiements pitoyables de l'Assemblée nationale autour des textes sur la politique du logement. Et pourtant, on a 2,7 millions de foyers qui sont en attente d'un logement, par exemple, social. 4 millions de foyers en France qui cherchent un logement décent. Donc on voit bien qu'il y a une demande. Et surtout, il y a une démographie qui a de l'impétence. Ces modes constructifs, c'est le sens de ma question. Est-ce qu'elles ont, dans le groupe Verrecchia, on fait de la pierre, une incidence sur l'attractivité? Est-ce que la chance que vous avez de construire différemment, de manière singulière, vous permet de surfer un peu mieux sur la crise du logement, de vous en sortir mieux, puisque en plus vous avez une particularité, c'est que vous maîtrisez toute la chaîne de valeur. Donc est-ce que à l'heure où on s'interroge autour des problématiques de logistique, notamment, vous savez, les camions qui font 10 allers-retours et qui génèrent parfois des nuisances sonores auprès des habitants, le fait qu'aujourd'hui on a par exemple de l'assemblage hors site, qu'on ait par exemple une filière bois qui est en train de se structurer, est-ce que tout ça a une incidence sur l'attractivité du produit dit immobilier?
Alors, en tout cas, je vais parler pour moi, je ne sais pas pour le bois, mais je vais parler pour la pierre. Je pense que oui, c'est une véritable attractivité parce que ça rassure déjà. C'est un matériau qui rassure, c'est un matériau qui est beau, et c'est un matériau qui surtout a prouvé dans le temps, par rapport à d'autres, qu'il était durable, qu'il était beau, et qu'il était, je dirais, réutilisable. Hein, on a toujours réutilisé la pierre à travers le temps, à travers, quand on a eu la Révolution française, alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est quand même un exemple. On a réutilisé ce matériau, c'est ce qu'on appelle un matériau géosourcé, qui est réutilisable. Donc il est indéfiniment réutilisable.
Quand on dit géosourcé, c'est-à-dire que on sait où vous extrayez la pierre, absolument, comment vous l'amenez, etc. Et donc ça, c'est un gage de qualité. Hein.
Voilà. Géosourcé, c'est quelque chose qu'on réutilise, qu'on extrait, qu'on réutilise. Le biosourcé, c'est quelque chose qui pousse et qu'on coupe, si vous voulez, mais qu'on peut pas forcément réutiliser. Donc nous, sur les 50 ou 100 ans à venir, personne ne pourra nous dire qu'on ne peut pas réutiliser la pierre. Mais vous savez, ça fait quand même 35 ans que je fais ce métier-là et que je construis des immeubles en pierre de taille. Je dirais que le premier que j'ai dû ravaler, il avait 30 ans. Donc si vous voulez, la CV des années de 50 ans, ça nous concerne pas vraiment. Et je pense que pour l'avenir, c'est très important d'être, justement, de redonner à ce logement neuf, en tout cas de la qualité, de la pérennité du patrimoine.
Vous avez absolument raison, puisque la pierre, c'est le fondement même des sociétés modernes, parce que les sociétés modernes, comme les sociétés anciennes et antiques, se sont construites à partir de la pierre. Vous l'avez rappelé hors antenne, vous me disiez le béton à 70 ans, oui, la pierre à 4000 ans. Quoi. Enfin,
oui, voilà, c'est ça.
Et non, mais c'est intéressant.
Et puis un maire fait toujours une première pierre, il ne fait jamais un bout de béton. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
c'est intéressant.
C'est vrai que, vous voyez, on a ces références qui sont fortes, mais c'est normal parce que ça dépasse. Vous savez, c'est un matériau qui dépasse l'humain, la pierre de taille. Mm-hmm. Donc c'est un matériau qu'il faut suivre, c'est pas un matériau qui nous suit. C'est ça qui est intéressant dans la construction en pierre, c'est qu'il est toujours évolutif. Et puis, il a prouvé qu'à travers le temps et à travers les millénaires, il était capable de passer tous les caps.
Alors justement, comment vous connaissez la Loisanne, je ne vais pas vous l'apprendre, bien évidemment, beaucoup de vos confrères sont très dubitatifs, on peut le dire, sur le fondement de la loi sur l'étalement urbain. Les amis, vous le savez, le zéro artificialisation nette, c'est un dispositif qui permet de maîtriser l'étalement urbain. Puisque souvent les gens confondent en disant dans le ZAN c'est zéro étalement, en fait non, c'est un étalement maîtrisé. Oui. À l'heure où, aujourd'hui, on maîtrise l'étalement urbain, et qu'on conjugue, et que finalement il y a une injonction presque démographique, notamment dans les zones dites tendues. Alors, bon, moi je suis pas promoteur, mais si j'étais promoteur, ça serait un casse-tête chinois. Comment on fait pour combiner une demande démographique très pesante, très forte, une grosse tension sur le demande de logement dans des zones tendues, alors là, Paris, Île-de-France, typiquement, hein, les grandes métropoles, et la Loisanne, qui vous empêche de vous étaler. Comment vous voyez ça,
vous? Vous savez, je pense que la France a besoin de prise de conscience, mais pas que sur l'immobilier ou la Loisanne. Il y a une prise de conscience qui doit être générale. Donc à partir du moment où on regarde la planète et qu'il y a des choses à faire sur cette planète, mais tant par rapport à l'humain que par rapport à la planète, on est bien obligé de raisonner autrement. La Loisanne, qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous oblige, si vous voulez, à réfléchir dans ce sens-là. Et on voit bien que mettre deux étages ou trois étages de plus... dès qu'on parle à un maire, il a un problème parce que le voisin ou je dirais que l'ensemble de la population pense que c'est pas une bonne idée. Sauf que si vous voulez, il n'y a pas tellement d'autres solutions. Donc je pense que déjà il faut être éducatif, faut que ce soit il faut qu'on apporte à la population déjà la conviction que cette Loisanne est bonne pour eux et bonne pour l'avenir. Donc c'est, je pense que le premier travail par rapport à ça, il est parce qu'on n'arrivera jamais à faire accepter le reste. Et vous voyez, nous, quand on rentre dans une ville...
C'est tout à fait vrai ce que vous dites.
Mais oui, parce qu'on oublie les... Vous savez, en France...
C'est presque du bon sens.
Ce qui est important, c'est qu'on oublie les valeurs les plus simples, vous voyez. Et je pense que, d'ailleurs, dans le logement, moi, on m'a dit, mais ne nous parlons pas de logement neuf. Et je dis non, je viens pas vous parler de logement neuf. Hein. Pendant que, je dirais que le gouvernement essayait de réfléchir à quelque chose, où ils n'ont d'ailleurs absolument réfléchi à rien, et on peut le dire maintenant, parce que voilà, et on m'a dit, mais j'ai dit non, il faut quand même qu'on réfléchisse entre 0 et 90 ans, en disant que le parcours résidentiel doit être revu et corrigé, et que les gens ne vont pas investir que dans la finance, et que parfois, le soir, vous savez, ils rentrent chez eux, et ils vont se coucher. Donc c'est pareil, des choses extrêmement simples.
Non, mais c'est tellement vrai ce que vous dites.
Et puis l'autre point, est-ce que quand on fait de l'immobilier en France, on fait travailler les entreprises françaises, on fait travailler l'industrie. Moi, j'ai des amis qui font du meuble en plein milieu de la Creuse ou dans d'autres régions et qui disent mais c'est pas possible, les commandes ne sont plus là et effectivement ils sont dépendants de l'immobilier, ils sont dépendants de cette évolution. Et c'est là où on a un vrai sujet. Est-ce que quand je mets 100 euros à ma banque, et qu'elle place ça sur un compte épargne, est-ce que je suis certain que c'est bon pour la France? Vous voyez? on nous dit que machin. Un propriétaire.
Vous avez pas envie de faire de la politique ou
Non, mais un propriétaire.
C'est intéressant
reste,
ce que vous dites.
Un propriétaire reste, en moyenne, 7-8 ans. Mais parce qu'il faut aussi regarder les choses autrement et d'une manière un peu, je dirais pas intelligente, mais différente. Un propriétaire reste 7-8 ans dans son logement. Un investisseur immobilier, pour la capitalisation, puisque maintenant, on nous dit qu'il faut capitaliser.
Il reste 15-20 ans.
Il reste 15-20 ans. Donc, on devrait être sur la qualité. La qualité, elle est hyper importante.
Voilà. Ah oui, c'est très juste ce que vous dites. Mais alors, justement, pourquoi... alors, je ne veux pas faire politique, hein, mais pourquoi, c'était ce qu'on a relevé, effectivement, Loisanne, atermoiement fiscal, pourquoi vous avez des politiques qui dialoguent quasiment à l'opposé de ce que vous venez nous dire ? Parce que je rappelle quand même que ces politiques, on les a élus.
C'est les... Alors, moi, je ne mettrai pas tout le monde dans le même...
Est-ce qu'on a ce qu'on mérite, quelque part ?
J'en sais rien. Moi, je parle aux maires. Je parle à ceux qui sont dans les villes. Je peux vous dire qu'ils sont assez remontés.
Ils disent quoi, les maires ?
Les maires, ils ont envie de construire, ils ont envie d'apporter de l'amélioration à leur ville, ils ont envie d'élargir, ils veulent faire de l'urbanisme. Vous voyez, donc... Je ne suis pas sûr que la densité ou la hauteur se mesure par rapport au nombre d'étages. Je pense que tout ça est relatif. Un bon architecte, un bon urbaniste, un bon paysagiste sait intégrer les choses. Et le plus important, c'est de vivre ensemble et vivre bien ensemble. Et se sentir bien là où on est. Je ne suis pas convaincu que c'est parce qu'il y aura deux étages de plus ou deux étages de moins qu'on vivra mieux ou moins bien. On vivra mieux parce que c'est bien fait. On vivra mieux parce qu'on pourra dire bonjour à son voisin sans qu'il nous dérange.
Il y a un sujet aussi dont on parle beaucoup. Vous allez me dire si vous y êtes. On parle beaucoup de chantiers en mode BIM, Building Information Model, c'est-à-dire un dispositif qui permet d'éviter le gâchis de mètres carrés, de réduire les nuisances logistiques, notamment ces fameuses toupies qui font les allers-retours tous les jours. Ça a l'air de bien fonctionner, mais il n'y a que même pas 20% des chantiers nationaux qui sont en mode BIM. On parle beaucoup de matériaux, de mix matériaux. Alors, mix béton-bois, par exemple, ou bois. On parle également...
Il y a béton-pierre aussi. Hein.
Oui.
On nous a mis dans la tête toujours le bois, mais la pierre, elle est sur notre sol. Mais cette construction... Au niveau national, il n'y a pas de bois, par contre.
Et actuellement, il y a un truc qui fait fureur. Moi, je ne fais pas un papier cette semaine.
Et je ne suis pas contre.
Sans en parler, que ce soit des groupes comme Nexity ou même Kaufmann, etc. On parle de plus en plus d'assemblage hors-site. Hors-site qui combine... Je lis ce qui est rapporté, vous allez me dire quel est votre avis. Le hors-site combine deux notions extrêmement importantes et fondamentales, nonobstant le fait qu'on gagne des délais et de livraison, c'est la sobriété des matériaux et justement la réduction des nuisances portant atteinte aux riverains, c'est vrai ?
Écoutez, je crois que c'est un matériau, ou en tout cas c'est un mode de constructif qui est très récent. On est d'accord que le hors-site, on entend parler depuis 2-3 ans.
Est-ce que vous en faites, vous, du hors-site ?
Nous, on est déjà hors-site. La pierre de taille, on la découpe avant, et quand elle arrive sur le chantier, elle est déjà découpée. Donc, c'est du hors-site aussi.
C'est pas la même chose.
Écoutez, moi, je suis...
Là, on parle des murs qui sont taillés, on parle de salles de bain pré-découpées, entre guillemets, et je suis allé voir sur des chantiers. Objectivement, c'est impressionnant. On voit des choses incroyables. On voit des grues qui... vous dépose un mur ou avec des salles de bain qui sont déjà complètes et qui s'imbriquent quasiment comme des, j'allais dire, comme des Lego.
Oui. J'avais jamais vu ça. Mais vous savez, moi, je suis un constructeur dans l'âme. Et un constructeur, ça met les éléments les uns sur les autres. Ça les boulonne pas et ça les déboulonne pas. Donc moi, je n'ai pas d'avis, en fait, sur ça, parce que je n'ai pas de recul par rapport à cela. Les seules choses que j'entends, c'est « ça se boulonne, ça se déboulonne ». Est-ce qu'il y a un choix ? Est-ce qu'il y a une modification ? Vous me dites « oui, c'est fait, c'est bien fait, mais est-ce que le client va avoir un choix ? Est-ce que dans 10 ans ou 15 ans, ce sera la même qualité ?»
Personne ne le sait.
Personne ne le sait. Moi, ça fait 35 ans que je construis des immeubles. Il n'y a personne qui m'a dit « non, je n'arrive pas à le vendre ou le revendre ». Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, je pense qu'il y en a pour tout le monde. Moi, je n'ai pas de sujet. Je suis très convaincu de mon matériau parce que c'est un matériau naturel, c'est un matériau vivant, qui est beau, qui a une forte inertie. Et que cette inertie-là, au niveau du bâtiment, elle est unique parce que personne n'arrivera à ce niveau-là. Tout simplement parce que il y a pas d'autre matériau qui est plus fort que cette inertie. On est en plein réchauffement climatique, parce que vous parlez de ça. Mais est-ce que le fait de faire des panneaux sandwich va vraiment régler la solution ou le problème.
Qu'est-ce que vous appelez des panneaux?
Les panneaux sandwich, c'est vous mettez un nombre de matériaux assez différents les uns à côté des autres, vous les assemblez, et ça fait ce que vous appelez le hors-site, en fait.
C'est exactement ce qui est... Voilà. C'est intéressant.
Voilà. Moi, je suis sur le parti de dire, bah voilà, il en faut pour tout le monde.
Vous n'avez pas l'air chaud avec cette matière.
Non, j'ai pas l'air chaud. Non, c'est pas ça. C'est que je pense qu'il faut mettre le bon matériau au bon endroit. La pierre de taille, elle est bonne sur l'extérieur.
Donc l'engouement, c'est quoi? C'est un effet de mode
J'en sais rien, ça fait combien de temps que ça existe? Pas si longtemps que ça?
Depuis moins de 5 ans, on voit des chantiers qui s'assemblent. Mais quand vous voyez, par exemple, pivoter des groupes comme Cogedim, des groupes comme Nexity, qui maintenant fait la promotion de ça, avec une filière bois qui s'organise, est-ce que vous vous dites, ils surfent sur une vague, et moi je vais rester toujours dans mon ADN?
Écoutez, moi j'ai beaucoup de promoteurs qui me disent qu'ils ne veulent plus faire ce genre de choses parce que ça leur coûte trop cher. Donc j'en sais rien en fait.
D'accord.
Je ne suis pas spécialiste
de ça. Mais vous,
vous n'y êtes
pas, vous ne le ferez pas.
Non, nous ce qu'on essaye de faire, et on a regardé déjà avec des personnes qui font du bois, de type Matisse, de faire plutôt des assemblages du matériau au bon endroit. C'est plutôt ça, nous, notre réflexion. C'est le bon matériau au bon endroit. Et je suis convaincu que le bon matériau au bon endroit sera bien plus performant qu'une uniformité sur ces choses-là.
C'est très clair.
Et l'autre point aussi, moi ça fait 35 ans que je vends à des clients, et on fait des plans sur mesure. C'est-à-dire que
comment c'est possible?
Comment c'est possible?
Quand vous faites un immeuble, vous avez des modules?
Mais non, on n'a pas de modules, on a des planchers, et des planchers avec des étages qui peuvent être vides, ou en tout cas accompagnés d'une manière un peu différente.
J'ai envie d'acheter chez Verrecchia.
Oui.
Et très franchement, les amis... vraiment aller voir, parce que j'ai vu cette je peux en parler de Domus, hein, de Domus, vraiment très beau, vraiment très 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 beau, des communs magnifiques, franchement on se croirait dans le 16e arrondissement, je vous le dis, vous avez fait
et on est à Rosny-sous-Bois,
et on est à Rosny-sous-Bois, vous avez avec des conditions d'accès, parce que là aussi vous êtes bon sur la commercialisation, vous avez une super équipe, c'est justement le fait que alors, c'est pas une provocation, mais je veux dire, on a l'impression qu'on a une catégorie de promoteurs qui ne veulent pas évoluer. Et on se dit, il y a une évolution, il faut vraiment surfer sur la vague, par exemple. Je vous donne un exemple. Au niveau, par exemple, des isolants. Il y a des nouvelles catégories d'isolants qui sont extrêmement frugales en termes d'énergie et de sobriété énergétique, avec même tout ce qui est vitrage, par exemple, tout ce qui est façade, tout ce qui est utilisation aussi des flux, notamment... avec l'énergie solaire, avec la géothermie, les réseaux de chaleur auxquels d'ailleurs vous êtes certainement raccordés.
Bien sûr.
Bien évidemment avec ce qu'on appelle du gaz vert, etc., etc. Alors, j'ai l'impression que qu'il y a quelque chose qui est en train de changer. Est-ce que, voilà, la question que je pose aux professionnels que vous êtes, est-ce que c'est quelque chose qui va passer, vous qui êtes dans le métier depuis plus de 30 ans, ou est-ce qu'on n'est pas en train quand même, quelque part, de changer de paradigme
Vous savez, il y a 35 ans, quand j'ai commencé, les immeubles que j'ai commencé il y a 35 ans ressemblent à ceux d'aujourd'hui. Parce que vous avez oublié une chose importante, il y a aussi l'architecture.
Oui, absolument. Oui,
hein, et l'architecture française, la singularité que l'on a, elle passe aussi par là. Donc il faut tout conjuguer. Moi, je ne suis absolument pas réfractaire à l'évolution des choses, à partir du moment où ça apporte un plus.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr.
Donc, vous parlez de panneaux solaires, bien évidemment, ça apporte un plus. Vous parlez de thermicité avec des nouveaux isolants, ça apporte un plus. Mais ça ne change pas mon extérieur à mon immeuble.
Mais vous le faites, ça, par contre.
Bien sûr.
Vous êtes.
Mais bien sûr.
Je veux dire, aujourd'hui, chez Verrecchia, les immeubles sont en catégorie énergétique A ou B maximum.
Mais bien sûr, on suit l'évolution par rapport à ça, mais toujours dans un côté traditionnel.
La pierre, c'est un super isolant.
Mais c'est le meilleur isolant sur l'extérieur.
Elle stocke la chaleur l'hiver, les calories qu'elle emprisonne, et elle garde la fraîcheur l'été.
Absolument, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le meilleur matériau, il n'y en a pas de mieux, ça j'en suis certain.
Et sur l'énergie. Et pourquoi on n'en parle pas plus?
Parce que
actuellement, on parle de rénovation et d'énergie tous les jours. Pourquoi on ne dit pas qu'il y a une inertie calorifique?
C'est un chantier à faire. Mais nous, ça fait longtemps qu'on en parle. D'ailleurs, j'ai pas un maire qui me dit non, j'ai pas envie d'avoir de la pierre de taille.
Mais
vous
oui.
voyez. Et puis, j'ai pas une seule personne qui me dit que quand elle va chez sa grand-mère en plein milieu du Morvan, l'été, eh bien, il fait chaud dans la pièce. Par contre, sa ferme, elle est en pierre de taille. Voilà. C'est parce que si vous voulez,
il y a pas plus beau.
Non, c'est parce qu'il fallait réindustrialiser et ce segment qui était national. Après, on a cherché le bois. Bon, très bien. Il y en a d'autres matériaux. Hein. Il y a le chanvre. Il y a beaucoup d'autres.
Ah, le chanvre qui est en train de prendre.
Voilà, il y a beaucoup d'autres abscons. Mais nous, chez Verrecchia, on sera toujours dans l'idée du bon matériau au bon endroit.
J'ai encore trois points que je voudrais vraiment voir avec vous et qui sont pesants. pour votre profession, le poids de la norme, le poids de la réglementation, on peut carrément parler d'inflation normative et réglementaire. Incroyable, incroyable. Le nombre de normes qui ont été inventées dans votre métier en 10 ans, c'est à se demander s'il n'y a pas une volonté destructrice du législateur en disant « je ne veux plus de promoteurs dans ce pays ». Je caricature un peu, mais c'est normal, je suis journaliste. Alors, le poids des normes et la réglementation entre sobriété foncière et énergétique. Comment on fait quand on est promoteur, une entreprise familiale comme la vôtre, pour trouver un bon positionnement et surnager à cette vague, ce déferlement normatif qui frappe tous vos confrères?
Alors déjà, c'est croire en ce qu'on fait. Vous savez, en 2008-2010, on avait la norme bâtiment basse consommation.
Oui, BBC, absolument.
BBC. Et j'étais au CSTB, on avait pris un stage avec mon frère, puisque mon frère s'occupe de la partie construction, c'est lui qui calpine les façades.
D'accord.
Et on nous avait dit, monsieur Verrequin, il va falloir que vous pensiez à arrêter, la pierre de taille, c'est terminé. Vous pourrez plus
en
faire.
En quelle année on vous dit
en
ça?
En 2010.
Au CSTB.
Ouais.
Allez, c'est très fort.
Et si vous voulez, avec mon frère, on lui a dit, bah, écoutez, on est content de l'entendre, parce que ça fait quand même 4000 ans que tout le monde se construit là. Et donc on a cherché. Et on lui a envoyé notre qualification label BBC, bien sûr, en 2012, 2 ans après. Donc il nous a rappelé en disant, mais comment vous avez fait? Donc je veux dire par là que quand on veut, on peut. Et pour nous, c'est important. Vous me parliez des normes. Je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui,
c'est l'enfer.
On passe plus de temps à déposer un permis qu'à réfléchir.
Une armée de juristes et d'avocats pour.
Voilà, on passe plus notre temps à regarder ce genre de choses qui parfois des normes qui sont contradictoires ou qui sont pas forcément intéressantes ou évolutives. Et vous prenez la pierre de taille qui est dans l'excellence de l'inertie et dans l'excellence du géosourcé et puis de la réutilisation. Je rappelle aussi que nos carrières sont à moins de 50 km, donc c'est des circuits courts. Comme par hasard, elle rentre pas dans un cadre. Donc, faut se poser la question, mais qui fait les normes et pour qui et pourquoi et comment? Vous voyez? Donc, il faut être un peu plus objectif et puis il faut donner sa chance à tous les produits. Hein. Voilà. À un moment, on s'est dit, il faut tout bois. Moi, j'ai dit non, il faut le bon matériau au bon endroit. Et on s'en est aperçu parce que, justement, on avait fait un ensemble tout en bois et un ensemble tout en pierre. Et après, on a fait une mixité. Et on s'est aperçu qu'on était bien plus performant avec la mixité qu'avec un seul matériau.
En fait, vous, c'est l'opportunité du territoire qui vous dit, parce qu'à l'évidence, dans le Morvan ou dans le Jura, comme dans le Sud-Ouest ou dans le Sud-Est, par exemple, ou au cœur de la France, on ne va pas utiliser les mêmes types de matériaux. C'est ce
mais
que
non,
disent beaucoup de personnes réalistes en disant le mixte matériaux, c'est une réalité opportune, finalement, de la pierre, du bois ou les deux.
Est-ce qu'à Lille, on a la même température qu'à Marseille?
Est-ce qu'on peut faire de la pierre et du bois, Marie-Rica?
Bien sûr, mais nous, on en fait. On en a fait.
Et comment on en fera?
Bah, il faut le mettre au bon endroit, c'est-à-dire que c'est plutôt les planchers, c'est plutôt les cloisons intérieures.
Oui, mais pas les façades, on est d'accord.
Mais vous faites pas un bardage, la façade, c'est la
vous faites pas un bardage bois autour de la tente. Non, la pierre, c'est votre. La tête de gondole américaine.
Oui, mais au-delà de ça.
On les voit.
Au-delà de ça, un, c'est beau.
Oui.
Deux, ça a la meilleure des inerties. Quand vous mettez un bloc de 23 cm et qu'il y a juste un isolant derrière, je peux vous garantir que quand il n'y a pas de rupture thermique par rapport à ça, eh bien vous avez une continuité dans l'isolation qui est la meilleure.
Mais pourquoi on n'en parle pas assez?
Ben, parce qu'il faut m'inviter plus souvent.
Mais moi qui suis vraiment dans le cœur du sujet avec la rénovation énergétique, on ne m'en parle jamais.
Bah parce que peut-être on n'a pas assez de. C'est un chantier pour nous. Hein. Nous
il y
en
a souvent qui disent la pierre c'est poreux, il y a les remontées capillaires. C'est favorable par exemple à la remontée, vous savez, des sels minéraux dans la terre qui se transforment en salpêtre et qui peuvent contaminer la pierre.
Mais non, mais ça dépend d'abord quelle pierre, parce qu'il n'y a pas de la pierre pour
et
faire.
Ça s'entretient la pierre.
Alors, non, ça ne s'entretient pas, ça se rabote. Regardez Paris. Est-ce que vous avez l'impression que les immeubles se cassent la figure? Un jour, on m'a dit...
Par contre, ils sont hyper énergivores, il faut le dire.
Non, mais ils sont énergivores, pas à cause de la matière.
Non, pas à cause de la matière.
Ils sont à cause des fenêtres et à cause
des toits en zinc et en ardoise, absolument.
Voilà, ou des isolants. Et puis, on m'a dit un jour, tu sais, en fait... parce que à chaque fois, on comparait la pierre et le bois.
Mais oui.
Est-ce que vous avez déjà vu des immeubles en pierre de taille, sur Paris, rénovés en bois? Est-ce que vous avez déjà vu?
Bah moi, non.
Bon, par contre, vous en avez vu en pierre de taille?
Ah oui, ça, c'est voilà. Sûr. Oui.
Non, je veux dire, vous savez, moi, je vais être assez simple. Je suis assez cutéreux là-dessus, vous voyez? Il faut être assez simple. Je n'ai aucune... Aversion sur le bois, parce que je considère que le matériau doit être au bon endroit.
J'ai deux dernières questions à vous poser qui sont très importantes. Le législateur actuellement discute au Parlement de la mise en place d'un statut du bailleur privé qui a été adopté en première lecture avec des premiers indices permettant de relancer l'investissement immobilier. Mmh. Avant de vous demander votre avis, nous avons fait des calculs typiques pour, je prends le statut du bailleur privé pour un T2, je prends un T2, hein, un T2 avec deux chambres, très classique pour un investisseur qui va investir 200 000 euros. Hein, je prends 200 000 euros. Si on prend le cadre du statut du bailleur privé actuel, avec un taux d'amortissement de 3,5% sous condition, bien évidemment, sous condition, on se retrouve avec une valeur nette de rentabilité de 1,6. Si la personne ne faisait rien, c'est-à-dire l'investissait sans avoir recours à ce fameux statut du bailleur privé, elle aurait, alors c'est pas énorme, mais un rapport de rentabilité de 1,8. Donc, il y a urgence à ne rien faire. Est-ce que ce statut dont vos confrères, toute l'industrie immobilière, voulait, parce que quelque part, oui, le fait d'amortir le bien sur une durée X, ça permettait quand même de relancer l'investissement qui, je le rappelle, est en panne de manière assez cruelle. Quel est votre avis sur cette question, sachant que le texte qui a été pondu, franchement, on peut le dire, il est décevant, quoi.
Mais vous savez, ça fait trois ans qu'on a
l'impression... Vous avez besoin des investisseurs, vous aussi.
Bah écoutez, alors je vais vous répondre sur trois points là-dessus. Le premier point, ça fait trois ans qu'on essaye d'expliquer quelque chose. On a l'impression que les portes doivent être ouvertes et qu'il y a des courants d'air, puisque personne n'écoute ce que l'on dit. Je pense que le système du bailleur privé est une très très bonne idée. Mais
c'est une superbe idée.
C'est une superbe idée, mais on
n'a pas, le bien, hein.
On n'a pas écouté la profession. On n'a pas écouté la profession. Et
ça vous a déçu, le texte qui a été
présenté ? Non, je me suis dit, vous savez, quand j'avais 7-8 ans, ma mère m'avait donné un petit livret A à la caisse d'épargne. Donc du coup, je l'ai recherché pour remettre de l'argent dessus, parce que ça ne sert à rien, vous voyez ?
Ouais.
Et j'ai l'impression, comme d'habitude, que depuis 7 ou 8 ans, tout ce qu'on parle en immobilier ne sert à rien au niveau du gouvernement ou du niveau du législateur. C'est, à part nous mettre des normes en plus qui bloquent et qui rendent les permis d'une complexité pour faire la même chose qu'on faisait il y a 20 ans, si vous voulez, quasiment, je vois pas bien la vision. Mais il y a pas de vision immobilière en France, il y a pas de vision sur la famille en France, il y a pas de vision sur l'urbanisme, en tout cas en France, et c'est tout ça qu'on conjugue. Moi, je dis qu'un ministre du logement, il devrait regarder tout ça et parler de la famille, et parler des gens, et comment on fait évoluer tout ce petit monde. Et moi, je trouve ça...
Vous les avez rencontrés ?
Je vais vous dire, moi, je suis fils d'émigrés. Hein. Mes grands-parents sont arrivés en 1925 à Aubervilliers, dans des cabanes en bois. Je peux vous dire que ces gens-là, ils méritaient le logement social. Mais je vais vous dire, aujourd'hui, je trouve que...
Oui, c'était les bidonvilles de Noisy-le-Grand...
Noisy-le-Grand, Aubervilliers, La Condamne, vous voyez, tous ces endroits-là. Et aujourd'hui, je trouve que même c'est... Enfin, je trouve que c'est on prend pas les bons mots au bon endroit. Logement social, vous voyez, c'est péjoratif, c'est mal vu. Logement intermédiaire, ça veut dire quoi ? Vous êtes en intermédiaire ? Non. Je pense qu'il faut revoir le parcours résidentiel au niveau national. 70% des gens... aujourd'hui, avec un logement social qu'on a fabriqué il y a 50 ans, sont éligibles au logement social. Donc je pense qu'il faut revoir l'ensemble.
Absolument.
Il faut revoir l'ensemble des choses.
62%.
Bah voyez, c'est bon, je suis pas loin.
Absolument.
Et il faut revoir cet ensemble-là pour pouvoir donner un accès à la propriété.
Sans les promoteurs, comme sans les gestionnaires de biens immobiliers et les promoteurs. Regardez un chiffre qui va vous faire plaisir, mais qui est quand même terrifiant. 90 000 agréments pour cette année, pour le logement social. La moitié ont été produits par des promoteurs privés comme vous.
Ben oui,
parce que si on n'a pas les promoteurs, on ne produit pas de logement social.
Mais bien sûr, le privé finance le social, c'était le moteur.
Vous rendez compte de l'énormité quand même ? Parce que vous souffrez terriblement dans votre métier. Je rappelle, alors, c'est pas votre cas, mais je rappelle qu'il y a eu 125 dépôts de bilan l'an dernier de promoteurs, et dont des promoteurs emblématiques.
Mais il faut s'en inquiéter.
Moi, j'ai l'âge d'en avoir connu. Mmh. Je me rappelle le carré à Angers, qui était un promoteur ancré dans le territoire, des promoteurs régionaux qui ont beaucoup souffert, malheureusement, qui faisaient entre 85 et 200 logements par an, et qui arrivaient à avoir des entreprises régionales de qualité, ont disparu. Parce que forcément, à un moment donné, c'était plus possible. Justement, quand on voit justement cette réalité, et vous l'avez dit tout à l'heure, que les promoteurs assument finalement une fonction sociétale, puisque...
Et environnemental aujourd'hui.
Un logement sur deux est produit par les bailleurs. Et d'ailleurs, les bailleurs sociaux disent, on a besoin des promoteurs. Alors, on va pas revenir sur ce qu'avait fait Emmanuel Wargon, une des multiples ministres du logement que nous avons eu, sur le rachat en bloc d'Action Logement et de la Caisse des dépôts. Je ne sais pas si vous avez cédé d'ailleurs à cette tentation de vendre en bloc vos immeubles. Vous l'avez fait aussi ?
On en a fait un peu, mais en fait, on est revenu là-dessus.
Oui, mais oui, parce que vous l'aviez fait. Alors, est-ce qu'objectivement, vous n'êtes pas obligé de me répondre, est-ce que vous aviez vendu en bloc vos immeubles avec une décote de plus de 12%?
Non, je ne vous répondrai pas, mais on a vendu avec une décote.
Voilà, bon. Voilà. Alors, nous, on estime, alors c'est sur nos tablettes qu'il y a eu des décotes qui peuvent aller, qui ont pu aller jusqu'à 15 ou 20% notamment. C'était extrêmement dur, sachant que vos marges ne sont pas si élevées que ça, parce que contrairement aux idées reçues, les amis, les marges opérationnelles des promoteurs ne sont pas élevées. Vous aviez Pascal Boulanger, le président de la Fédération des promoteurs immobiliers, qui était sur ce plateau et qui a dit que la marge nette d'un promoteur in fine, c'est 5%.
C'est ça.
Donc, on ne peut pas dire. Très franchement, que vous êtes
c'est des grands risques,
entre guillemets,
ce sont des grands risques.
Des grands salauds de capitalistes qui vivent sur le peuple. Bon, dernière question, je passerai bien une heure avec vous, mais malheureusement le temps nous est compté, ça fait déjà 30 minutes, j'ai un peu explosé les délais. Je vais négocier ça avec notre ami Baptiste. La question, c'est que nous avons des élections sans précédent qui arrivent à échéance. 2026, municipales. Sur les municipales, on sait déjà qu'il y a 30% des maires qui ne se représenteront pas. Municipales, hyper important. Juste un an après, à peine, on a les présidentielles et les législatives. Question, à l'aube des municipales, quel discours vous tiennent aujourd'hui les maires et qu'est-ce que vous espérez, vous, Marc Verrecchia ?
Le discours des maires, il est compliqué parce qu'ils ont, ils sont en direct avec la population. Donc, si vous voulez, c'est un peu compliqué pour eux par rapport à cela. Et ils ont du mal, effectivement, à conjuguer leur équilibre parce qu'on leur a un peu tout piqué. L'État pompe sans arrêt dans les caisses de la ville et l'équilibre est de plus en plus compliqué pour eux. Donc, je pense que ça, c'est un vrai sujet pour eux. Et franchement, ils ont beaucoup de mérite, en tout cas. Et on les soutient par rapport à ça. En ce qui concerne les élections municipales, les 30%, je n'ai pas d'avis parce que c'est...
Les maires que vous connaissez, c'est surtout l'Île-de-France.
L'Île-de-France, oui. Et la Côte d'Azur. Donc si vous voulez, voilà, c'est des villes importantes où il y a besoin effectivement d'une certaine continuité. Et on sait très bien que le premier mandat, c'est une observation. Et la suite, c'est là où ils peuvent effectivement faire évoluer leur ville et dans le bon sens. Vous savez, on vit une période où il faut arrêter de vouloir changer tous les deux ans. Il y a une politique, elle doit se mener sur le long terme.
Mais si vous deviez formuler un vœu, ça serait quoi ?
Leur donner plus de pouvoir.
Plus de pouvoir.
Leur donner plus de pouvoir.
C'est exactement ce qu'ils demandent.
Mais ils ont raison.
C'est exactement ce qu'ils demandent, plus de pouvoir, et surtout qu'on leur rende quelques recettes fiscales.
Vous voyez, c'est ce que je veux. Parce que c'est évident, c'est normal.
Et vous seriez d'accord pour la réinstauration d'une taxe d'habitation ?
Complètement d'accord.
On est d'accord là-dessus, bien évidemment. Merci Marc Verrecchia, c'est un vrai plaisir de vous avoir eu sur le plateau. Je rappelle que vous êtes président du groupe Verrecchia. Alors la pierre de taille, c'est vraiment chouette, vous allez voir. On peut d'ailleurs aller sur votre site
internet. On oublie une chose quand même. Oui. Verrecchia, pour nous et pour moi, ce qui est le plus important dans l'immobilier, c'est toujours de faire du beau. Donc nous, ça sera toujours notre fer de lance, le beau, à travers nos constructions, à travers nos architectures.
Comme quoi finalement Nietzsche avait raison en disant que le bien est un élément du beau.
Absolument.
Et donc on peut avoir un bien beau et pas forcément se ruiner, contrairement aux idées reçues.
Je vous rappelle quand j'ai commencé dans la Seine-Saint-Denis et j'ai toujours dit, c'est pas parce que je suis en Seine-Saint-Denis que je dois pas faire des logements de qualité, et on a commencé à faire de la pierre de taille en Seine-Saint-Denis.
Toute dernière, mais très rapide, on peut acheter un peu, il y a encore un peu de stock chez Verrecchia, on peut y aller ?
Alors vous allez sourire, on s'est bien débrouillé, il nous reste 9 logements en stock.
D'accord. Est-ce que le logement est quand même abordable chez Verrecchia ?
Oui.
C'est quoi le prix moyen d'un mètre carré
chez nous, on est entre 4500 et 6500.
Donc ça reste hyper abordable.
Oui,
merci.
Ça reste abordable.
Marc Verrecchia.
Merci.
Voilà, premier portrait de promoteur à suivre, d'autres promoteurs. Alors c'est notre ami Bérénice de Villeflorio qui devait s'y coller, mais je suis ravi de le faire également à sa place. On va enchaîner sur tous les types de promoteurs. D'ailleurs, on va vous faire découvrir la planosphère de la promotion immobilière. On est ravi de passer ce moment avec vous et on se retrouve très prochainement pour un nouveau portrait de promoteur dans un zoom spécial de l'info.
Radio Immo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.